RCF.
Le 18-19 en Champagne, le magazine régional avec RCF Cœur de Champagne et RCF Reims-Ardennes, avec une émission spéciale aujourd'hui avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons.
Bonjour Jean-Pierre et bonjour à tous.
Bonjour Monseigneur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors c'est vrai que nous sommes aujourd'hui le mercredi des cendres, nous entrons donc en carême. Alors comment peut-on définir cette période du carême et l'entrée en carême aujourd'hui ?
Alors le temps du carême, c'est un temps d'entraînement au combat spirituel, un entraînement à la vie chrétienne en fait, qui dure 40 jours. Ce temps du carême, il s'inscrit dans toute la tradition biblique des 40 années passées par les Hébreux dans le désert après avoir quitté l'Égypte et avant d'entrer en terre promise, aussi marqué par les 40 jours que Jésus passa au désert, là où il fut marqué, où il fit l'expérience de la tentation, l'expérience du mal à l'assaut de son cœur et de sa volonté. Donc un temps d'entraînement à la vie chrétienne au long duquel l'Église accompagne tous les fidèles pour se tourner vers Pâques, vers la célébration du mystère pascal. Donc c'est un temps qui, au long des siècles, s'est agrandi depuis au début, dans l'Antiquité chrétienne, il faisait simplement 3 ou 4 jours, et puis ensuite une grande semaine, et puis maintenant 40 jours. C'est donc une grâce à accueillir, et on y entre le jour du mercredi des cendres, effectivement, aujourd'hui.
Alors c'est vrai, aujourd'hui, mercredi des cendres, comment se sont passés les offices ? Parce que c'est vrai que sur le plan pratique, la crise sanitaire et le couvre-feu empêchent souvent un déroulement normal des célébrations.
Oui, bien sûr, les conditions actuelles ne favorisent pas la célébration des offices de façon normale, mais je constate que beaucoup de paroisses ont élargi la proposition des horaires, en tout cas de célébration, au lieu d'attendre le soir, comme il y a le couvre-feu, ça n'était pas possible. Il y a eu des célébrations dans la matinée et aussi à l'heure du milieu du jour, à midi ou à midi et demi, dans un certain nombre de lieux, ce qui permet aux uns et aux autres de participer. Moi-même, j'ai pu célébrer la messe à la résidence Monseigneur Bardone, à Châlons-en-Champagne. C'est la maison de retraite dans laquelle il y a quelques prêtres. Et une résidence qui a été marquée très très fortement par l'épidémie pendant le mois de janvier, dès le lendemain de Noël, avec 17 décès sur 50 résidents, parmi lesquels 2 prêtres du diocèse et une vierge consacrée. Donc les prêtres âgés, les 3 qui restent, me disaient leur grande souffrance ce matin d'avoir vécu ce confinement dans leur chambre et de ne pas avoir pu vraiment célébrer la messe depuis Noël, parce qu'ils n'ont aucun des 3 prêtres n'a vraiment la force de présider. Donc il y a vraiment, je crois, en même temps, dans cette célébration des cendres, le sentiment que le carême de l'année dernière s'est toujours pas terminé, en fait, à cause de cette épidémie. Et du coup, il prend un peu une couleur de, peut-être plus encore que de la pénitence, mais une couleur de consolation pour accueillir la tendresse de Dieu et sa présence à nos côtés.
Sur le plan pratique, alors là je suis vraiment, Monseigneur, vraiment pratique. C'est vrai qu'au niveau des jauges et au niveau des personnes qui viennent aux célébrations, souvent on s'interroge, mais c'est vrai que ça dépend de la grandeur des offices, dans une cathédrale ou dans une basilique, une grande basilique, ou dans une petite église, c'est tout de même pas la même chose.
Non, nous avions eu un grand débat au mois de novembre lorsque le chef de l'État et le gouvernement avaient imposé une jauge forfaitaire, je dirais, de 30 personnes dans chaque lieu de culte, quelle que soit sa taille. Bon, depuis, les choses sont rentrées dans l'ordre. Les normes sont quand même très contraignantes, mais c'est environ donc une personne pour 6 places, ce qui permet quand même de réunir des assemblées. Bon, il y a toujours des gens qui sont habités par l'angoisse, la peur, qui ne veulent pas sortir, qui ne veulent pas rejoindre les églises. Mais de façon générale, le rythme essaie de se reprendre tout doucement. En tout cas, il faut y encourager, je crois. Et le carême peut être un moment propice à cela, avec l'arrivée des beaux jours, etc. Nous espérons vraiment, nous sommes tendus vers cette grande semaine sainte et la célébration de Pâques. L'an dernier, ça avait été très très difficile de le vivre uniquement devant les écrans de télévision. ou de célébrer pour moi tout seul dans la cathédrale, avec des caméras seulement. Mais bon, les choses sont maintenant un peu dans l'ordre. Et puis, sur un plan pratique, il y a pas que les offices, en fait. La vie chrétienne, la vie ecclésiale s'organise avec beaucoup de rencontres qui peuvent se faire en journée. La catéchèse a pu reprendre de ci, de là, en veillant à respecter les mesures barrières, en utilisant des grandes salles, etc. Donc, voilà, nous sommes là, et moi comme évêque, pour soutenir, encourager les uns les autres dans cette marche. La vie chrétienne, c'est une marche, c'est un chemin, une route, un pèlerinage. Et le carême en est une image pendant ces 40 jours au cœur de l'année.
On reviendra bien sûr tout à l'heure, Monseigneur, sur la vie diocésaine dans le diocèse de Châlons. Mais c'est vrai que cette durée, vous venez de le dire d'une certaine façon à l'instant, une durée de la crise qui se prolonge, ça suscite quand même une forme d'usure, hein, sans être pessimiste, mais il y a des personnes qui commencent à avoir, sur le plan même psychologique, une certaine détresse, peut-être même parfois des certaines dépressions, parce que cette solitude qui se prolonge, c'est quand même difficile pour un certain nombre de personnes, peut-être qui nous écoutent en ce moment, dans des villages, dans le monde rural, etc., où, malgré tout, ils ont quand même des personnes qui peuvent venir à leur rencontre.
Oui, mais de fait, vous avez raison de le souligner. Je crois qu'il y a un climat assez morose, une ambiance assez terne. Je pense, et je l'évoquais tout de suite, il y a les personnes âgées qui vraiment sont profondément touchées, blessées par la solitude qui leur a été imposée. Je pense aussi aux jeunes, les jeunes générations, non seulement collège et lycée, mais surtout dans la période étudiante, enfin les premières années de la vie adulte. Je pense à tous ces étudiants qui, pareil, sont restés pendant des mois dans leur chambre d'étudiants devant leur ordinateur. Bon, ils retrouvent tout doucement le chemin des restaurants universitaires ou des amphithéâtres, mais on sent bien qu'il y a un impact très fort sur la société en général, sur les relations sociales, les relations professionnelles, le télétravail qui est demandé, qui est recommandé de façon très forte. Eh bien, provoque aussi une absence de relations sociales entre collègues, avec l'amitié sur un lieu de travail. Je le constate moi-même à l'évêché. Donc, ce sont des tas de difficultés qui sont apparues et qui persistent. Et puis, je pense aussi à l'impact sur la vie de l'Église, la vie des communautés paroissiales principalement, des groupes aussi, des équipes dans les mouvements d'action catholique, où comme il est difficile de se retrouver, comme il est recommandé de ne pas se rassembler trop nombreux, eh bien on sent bien qu'il y a un impact sur cette fraternité à vivre, à mettre en œuvre chaque jour, sur les élans de solidarité, même des équipes comme au Secours catholique ou dans des mouvements d'entraide avec des bénévoles assez âgés qui n'ont plus osé sortir ou déployer leur générosité. Enfin voilà, un impact très fort même sur la foi, sur la charité et même sur l'espérance aussi, qui me marque beaucoup, qui me marque beaucoup. Je l'observe, je l'entends. Parfois, moi, je peux être gagné aussi par une certaine forme de découragement, enfin en tout cas de difficultés, de souffrances personnelles comme pasteur. Moi, ma vocation, c'est d'être là, c'est de rassembler, c'est de conduire, de guider, d'enseigner. Et puis, quand on est là tout seul chez soi, c'est quand même un petit peu lourd pour tout le monde. Donc, c'est dans tous les domaines de la vie, en fait.
Alors, c'est vrai, Monseigneur François Touvet, je rappelle, émission spéciale avec vous, comme évêque de Châlons, dans ce magazine régional. Alors, c'est vrai que vous le disiez à l'instant, la crise se prolonge, mais il y a des habitudes plus ou moins bonnes qui peuvent être prises. Mais il y a quand même des initiatives positives qui peuvent être conduites. Vous en êtes peut-être témoin. On vous avait évoqué des rassemblements. Parfois, il y a des familles qui se regroupent, qui font la prière ensemble, qui n'auraient jamais peut-être fait parce qu'ils étaient dans un tourbillon. Donc, il y a quand même quelques aspects positifs qu'on peut noter.
Oui, et heureusement. Et heureusement, il y a eu toutes sortes d'initiatives déjà depuis l'année dernière. Ça fait un an que ça dure. Un an que ça dure, puisque le confinement est arrivé au milieu du mois de mars, en 2020. Et très très vite, on a vu surgir et se déployer toutes sortes d'initiatives. Vous parliez de la prière, de fait, il y a eu des occasions pour les membres d'une même famille d'apprendre à prier ensemble, ou de faire une petite liturgie le dimanche à la maison parce qu'on ne pouvait pas aller à l'église. Je pense qu'il y a aussi des choses très belles qui ont été vécues dans le domaine de la vie fraternelle, avec le soutien à des familles en difficulté, à des enfants qui étaient, parce qu'ils n'allaient pas à l'école, en difficulté scolaire ou qui risquaient de décrocher complètement. Il y avait le soutien pour les devoirs scolaires à distance, alors que les parents sont peut-être infirmiers ou médecins, etc. Je pense qu'on a eu aussi beaucoup de belles initiatives dans le domaine de l'utilisation des moyens modernes de communication. Nous sommes là au micro de la radio RCF Cœur de Champagne, et c'est vraiment un outil merveilleux, et je suis heureux de saluer tous nos auditeurs d'ailleurs à cette occasion. Mais il y a aussi les réseaux sociaux, il y a l'Internet qui nous ont permis toutes sortes de retransmissions. Je pense à les jeunes ont pu faire des rencontres d'aumônerie comme cela. Les jeunes professionnels aussi se rencontrent. Dans quelques jours, j'interviendrai comme témoin auprès d'un groupe de jeunes professionnels. Voilà, toutes sortes d'idées, d'initiatives où l'Église n'a pas manqué d'imagination, d'innovation, de capacité de se lancer, de se projeter dans l'avenir. Et je trouve ça vraiment un très beau signe, malgré les difficultés.
Alors, on a vu, évidemment, on a parlé, Monseigneur, des jauges, des chiffres qu'il ne fallait pas dépasser dans un certain nombre d'églises, en tout cas avec un pourcentage. Et la fréquentation, forcément, a diminué, parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas, d'un certain âge aussi, qui ont peur, etc. Alors, comment quand même rester en contact? On imagine qu'il y a des prêtres qui donnent des coups de fil, qui rendent quand même quelques visites, parce que le confinement n'est tout de même pas total. Il y a des libertés quand même en journée.
Oui, le confinement, il est entre 18h et 6h du matin. Autrement, dans la journée, chacun peut vaquer à ses occupations familiales, professionnelles, etc., sociales, et c'est très bien, heureusement, même si on pense à tous ceux qui ont dû fermer leur établissement, je pense que à tous les restaurants, des hôtels, des lieux de vacances qui sont vraiment en grande difficulté financière et inquiétude pour leur avenir. En tout cas, du côté de l'Église, oui, les assemblées sont moins nombreuses, on sent qu'il y a vraiment un impact très fort, ça me touche beaucoup de voir cela. Même si j'ai eu la joie dimanche dernier de célébrer le sacrement de la confirmation avec une très belle assemblée, bon, selon les normes actuelles, mais c'était très beau avec de la jeunesse. Alors, ce que nous essayons de favoriser, et ça sera le cas d'ailleurs pendant ce temps du carême qui commence aujourd'hui, c'est la constitution de petits groupes de proximité. On voit bien que c'est difficile de se rassembler en grand nombre, il y a des personnes qui n'osent pas. J'ai donc lancé un appel très large dans le diocèse pour que partout se constituent ces petites équipes, ces petits groupes. Alors ça va être quelques personnes dans le village ou sur deux ou trois villages voisins ou dans un quartier, dans un immeuble, pour se retrouver une fois par semaine. Une fois par semaine pendant une heure environ, et avec l'aide d'un petit livret que nous avons édité et diffusé à presque 2500 exemplaires, qui s'appelle « Traverser le désert en prophète de l'espérance », mais il y a une rencontre par semaine qui permet de s'approprier le projet missionnaire diocésain, puis surtout de s'aider mutuellement à vivre en chrétien, au cœur de ce désert spirituel, de ce temps de découragement, de morosité, et bien s'aider mutuellement à vivre en chrétien, à continuer la route, à être attentif à ceux qui sont plus fragiles et qui sont blessés. Il y a vraiment là un défi pour ne pas rester seul, et puis vraiment faire l'expérience de la communauté, même si c'est en tout petit nombre. Et puis je crois qu'il y a vraiment aussi la recherche dans les prédications d'ailleurs le dimanche, et ça sera le cas ce dimanche qui vient avec l'appel décisif des catéchumènes. Le fait d'annoncer vraiment le cœur de la foi chrétienne. Le cœur de la foi chrétienne, c'est que Jésus est sauveur. Jésus est sauveur du monde. Par sa mort et sa résurrection, il nous arrache à la puissance du mal et de la mort. Eh bien, dans une période marquée par le mal et par la mort, par l'inquiétude de la mort pour tous, eh bien, je pense que le message chrétien a une pertinence tout à fait extraordinaire et qu'il nous faut le dire, le proclamer. Je le dis ici sur les ondes de RCF Cœur de Champagne. Alors oui, Dieu n'est pas un magicien, il ne va pas d'un coup de baguette magique comme cela arrêter cette épidémie, mais il nous aide à la vivre, à la traverser, à y être confronté, et dans nos cœurs surtout, il nous aide à ne pas perdre l'espérance. Moi je crois, je suis baptisé, je suis chrétien avant même d'être évêque, eh bien je crois que Dieu m'a sauvé, que Dieu, le jour où j'ai été baptisé, m'a offert cette grâce d'être sauvé, de recevoir la promesse de la vie éternelle, et c'est ça qui me fait vivre.
Monseigneur, on va se retrouver pour évoquer, bien sûr, cette vie diocésaine. On peut le faire quand même d'un mot. C'est vrai aussi pour le diocèse de Reims, avec les espaces missionnaires, lorsque ces grandes transformations se font, ils se font dans une période un peu difficile, dans une forme de désert aussi. Est-ce que, au fond, cette période, lorsqu'elle sera traversée, on peut espérer qu'elle fasse émerger de nouveaux caps, de nouvelles routes, de nouvelles espérances?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui. Dans le diocèse de Chalon, on y reviendra tout à l'heure, je pense. J'ai donc publié le projet missionnaire diocésain le 10 octobre, et puis quelques jours à peine après cette publication, il y a eu le confinement, etc., la succession des événements que nous connaissons. Et du coup, je mesure bien que ce projet n'a pas été encore reçu par tous. Et donc, il nous faut maintenant envisager de le déployer davantage. Et ce texte que j'ai écrit, c'est le fruit d'un travail de 4 années environ, mais je l'ai écrit avant le premier confinement, et puis pendant, au printemps, et puis en été, en essayant de tenir compte de tout ce qui émergeait, et je reste ouvert à tous les inattendus de l'Esprit-Saint.
On va se retrouver dans une poignée de minutes, Monseigneur François Touvet. On aura l'occasion, bien sûr, de revenir en particulier sur les projets, sur ce qui se passe dans le diocèse de Chalon, parce que c'est vrai que pendant cette période, on ne peut pas toujours vivre dans le confinement en disant « on ne va pas regarder ce qui se passe demain ». On fait comme si, de toute façon, tous les événements pouvaient avoir lieu.
Alors, c'est mon attitude. C'est mon attitude. J'essaye d'être là pour accompagner ceux qui peinent à avancer, mais je saisis toutes les occasions pour dire essayons de nous remettre debout, essayons déjà de commencer à rebâtir tout ce qui a été démoli, à remettre en route tout ce qui a été cassé ou interrompu, et donc de me projeter vers l'avenir, de garder des perspectives, des idées à mettre en œuvre, pour que se déploie, bien sûr, la vie chrétienne, l'annonce de l'évangile, le service des autres. Il y a toutes sortes d'idées qui émergent de ci, de là, autour de moi et dans mon cœur, dans mon intelligence. Et puis, nous verrons, lorsqu'on sera un petit peu libéré de tout cela, comment les mettre en œuvre réellement. Mais de fait, je crois que c'est important, c'est une attitude chrétienne fondamentale de rester comme cela dans l'espérance, de ne pas regarder en arrière, de ne pas rester là assis au bord de la route en baissant les bras. Il y a des blessés de la vie, il y a des blessés par l'épidémie, il y a des gens qui sont vraiment démoralisés. Donc nous sommes là pour les aider à avancer, à se remettre en route. Mais ma mission comme pasteur, c'est aussi de dire voilà le chemin qui s'ouvre devant nous, on va le parcourir ensemble.
Merci Monseigneur François Touvet. Pour les auditeurs de RCF, à RCF Cœur de Champagne, RCF à Sardaigne, on vous donne rendez-vous dans une poignée de minutes, juste après le journal régional d'Alexis Claudrette.
RCF, le journal.
Les titres de cette édition, comment les jeunes de notre diocèse vivent-ils le temps du carême entre représentation de cette fête et attitude qu'ils adoptent pendant les 40 prochains jours, nous les avons rencontrés pour en savoir plus. Le musée de Saint-Dizier continue son cycle de conférences organisées en partenariat avec les archives départementales de Haute-Marne et l'association Archéolona. Un nouveau rendez-vous est prévu demain.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Ce mercredi, nous entrons en carême, un temps de préparation de 40 jours à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ. Ces 40 jours nous permettent de revivre avec le Christ au désert les 40 années de la marche des Hébreux vers la terre promise. C'est la même expérience d'intimité avec Dieu que souhaite revivre toute la communauté des croyants, baptisés ou catéchumènes, alors qu'elle se met en route vers Pâques. Et cette année, on a rencontré Gabriel, Lucie, Eugénie et Justine du diocèse de Reims et des Ardennes, mais aussi du diocèse de Chalon, qui nous disent ce que représente le carême pour la jeunesse catholique.
Il n'y a pas de carême type, il y a un carême vraiment personnel où c'est un chemin entre soi-même et le Seigneur, un chemin où on doit se rapprocher de l'essentiel.
Le carême, ça représente un grand moment de partage et de prière. Ça va être beaucoup de services et de moments de pénitence. Un grand moment, je pense, pour la fraternité dans notre communauté.
Je pense que le temps du carême, c'est l'occasion peut-être de se remettre en question, de prendre du temps pour soi et surtout pour les autres, et éventuellement peut-être de faire de nouveaux projets.
Ces 40 jours de repentance avant Pâques, se priver de toutes les choses futiles pour laisser guider le Christ et discerner les priorités de notre vie à travers la prière, la pénitence et l'aumône.
Souvent envisagé comme un temps de pénitence, le carême ce n'est pas que ça, c'est aussi un temps de conversion caractérisé par le partage et la prière. Ainsi, les jeunes rencontrés nous ont dit comment ils comptent vivre ces 40 jours qui nous conduiront jusqu'à la fête de Pâques.
Par exemple, je vais tenter de moins allumer la console le soir en rentrant chez moi, en mettant Netflix et les séries un peu plus de côté. Enfin, c'est toutes ces petites choses-là qui paraissent minimes, mais qui font qu'on s'éloigne un petit peu du principal qui peut être souvent devant nos yeux dans des lectures ou des moments de prière.
Ça va être beaucoup de prières, le matin et le soir, et ça va être un moment partagé. Je pense que le carême, c'est important de faire des concessions pour... voir les priorités de la vie, en fait, et ouvrir le silence pour Dieu. Et donc, moi, je compte faire des concessions au niveau nourriture, également au niveau réseaux sociaux, voilà, moins être sur le téléphone et prendre plus de temps de silence et, comme je le dis, de partage.
J'ai entendu parler qu'à la messe, ils organisaient des maraudes, donc pourquoi pas m'inscrire, et aussi lire un passage de la Bible un peu tous les jours pour m'inspirer peut-être du passage. J'ai envie d'arrêter de prendre mon petit déjeuner le temps du carême parce que je pense que c'est un moment trop gourmand et que j'ai envie de le supprimer au moins le temps du carême.
Se lever plus tôt pour avoir plus de temps pour ouvrir ma Bible, essayer au mieux d'avoir un comportement d'un bon disciple missionnaire.
La période du carême a commencé aujourd'hui, mercredi 17 février, mercredi des cendres, et se déroule jusqu'au dimanche 4 avril, dimanche de Pâques. Dans le diocèse de Reims et des Ardennes, vous pouvez vivre le carême en fraternité avec la proposition Carême en frères qui vous emmènera chaque jour à la rencontre d'acteurs de la vie diocésaine et qui vous permettra aussi de retrouver les conférences de carême hebdomadaires proposées par l'archevêque Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort en vous inscrivant sur le site du diocèse. On se balade dans la Marne à Fagnières, près de Châlons-en-Champagne, la commune en partenariat avec la protection civile, les professionnels de santé, l'agence régionale de santé et le centre Édouard Leclerc organisent une journée de dépistage ce samedi 20 février de 9h à 17h dans la galerie marchande du magasin Leclerc. Vous l'avez compris, une journée de dépistage à la Covid-19, bien évidemment. Demain à 18h30, le musée de Saint-Dizier continue son cycle de conférences organisé en partenariat avec les archives départementales de Haute-Marne et l'association Archéolona. Frédéric Séhara, conservateur régional et archéologue, sera en live pour une conférence intitulée « Vivre au temps des derniers chasseurs-cueilleurs de la préhistoire ». Clément Michon, conservateur du musée municipal de Saint-Dizier.
Frédéric Séhara, conservateur régional de l'archéologie, viendra nous parler de son domaine de prédilection, sa spécialité scientifique, donc le Mésolithique, avec une conférence intitulée « Vivre au temps des derniers chasseurs-cueilleurs de la préhistoire ». Et présenter le Mésolithique, qui est une période de transition entre le Paléolithique, la période glaciaire, la grande grotte ornée, et le Néolithique, l'invention de l'agriculture. Et donc c'est une période qui est marquée déjà à l'époque par le réchauffement climatique, puisqu'on sort de la période glaciaire, et en fait, de grandes forêts vont remplacer la steppe, donc avec un changement du gibier, les mammouths disparaissent, et on va voir se développer beaucoup plus d'oiseaux, les animaux que nous connaissons actuellement, les cerfs, les biches, donc ce qui va amener tout un changement des modes de vie, et également donc des vestiges qu'on va découvrir de cette période, et des pratiques artistiques.
Et non pas des champignons.
Si, peut-être changement de l'alimentation aussi, et de ce qu'on va pouvoir consommer, dont peut-être les champignons.
Des propos recueillis par Gérald Gaillet de RCF Cœur de Champagne, une conférence qui sera à vivre en direct depuis la page Facebook du musée de Saint-Dizier à partir de 18h30. Ainsi se referme cette édition. Dans quelques secondes, vous retrouvez Jean-Pierre Benoît avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. L'émission spéciale continue dans votre magazine régional ce soir.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Le 18-19, aujourd'hui, avec une émission spéciale et Monseigneur François Touvet, juste après ce journal régional que nous venons d'entendre avec Alexis, mais on reprend justement ce direct avec Monseigneur Touvet. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Monseigneur, on en a parlé tout à l'heure, mercredi des cendres, l'entrée en carême, Et dans le diocèse de Chalon, depuis plusieurs mois, vous nous l'aviez dit, depuis même plusieurs années, vous avez réfléchi, vous mettez en place de nouveaux modes de fonctionnement, vous invitez des changements importants. Alors, on peut peut-être faire le point avec vous aujourd'hui.
Ben volontiers, volontiers, volontiers. Donc, effectivement, il y a un projet missionnaire diocésain qui a été publié en octobre dernier sous la forme d'une longue lettre pastorale qui s'appelle « Prophète de l'espérance ». Voilà, c'est une très belle expression que j'ai empruntée au pape Saint Jean-Paul II et qui indique bien, je crois, le chemin que nous avons à parcourir. Alors, c'est plus encore qu'un fonctionnement nouveau. Je pense que c'est une sorte de une dynamique dans laquelle j'essaie d'entraîner le peuple de Dieu avec moi pour voir envisager à frais nouveaux l'annonce de l'Évangile et la construction de nos communautés chrétiennes dans un monde très très fragilisé. Et donc je donne en fait ce qu'on appelle une vision, c'est pas une apparition, c'est pas une vision mystique, mais c'est une vision réfléchie, c'est-à-dire un objectif, un but à atteindre que j'ai défini de la façon suivante, à partir d'une observation de la réalité humaine, sociale et spirituelle autour de moi, où je me dis finalement nous sommes un petit peu comme dans un désert, un tout petit nombre de chrétiens. On n'est plus en situation de chrétienté, je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs, un petit nombre de chrétiens très généreux, très, très, très fidèles dans la foi, mais en même temps qui n'a pas tous les moyens de déployer la mission qui est la sienne, et dans une époque aussi qui est très très nouvelle, qui a connu de grands bouleversements, et des bouleversements très rapides d'ailleurs. Donc, dans cette sorte de désert spirituel, moral, humain, familial, eh bien, la vision que je donne, c'est de créer ou de développer des oasis. Des oasis, c'est-à-dire des lieux de vie, de rencontre, où l'on aime se rassembler, se mettre à l'abri, pour se nourrir, pour boire, pour se former, pour rencontrer des amis, etc. Avant de repartir dans le désert pour la mission. Et donc j'ai construit ce projet missionnaire sur cette idée-là de construire ou de développer un réseau d'oasis pour accueillir de nouveaux croyants. Voilà, moi je ne peux pas me résoudre à une église en décroissance, en diminution. Oui, c'est vrai, c'est la réalité aujourd'hui. L'église n'a pas la posture qu'elle avait il y a encore 20 ans ou 50 ans. Mais je crois profondément que l'action de Dieu dans le cœur des croyants génère des élans extraordinaires pour la mission. Et nous le voyons d'ailleurs tout au long du livre des Actes des Apôtres, où il y a plus d'une vingtaine d'expressions qui indiquent que l'Église était en croissance. C'était l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Église était en croissance, on accueillait de nouveaux croyants, ceux qui s'adjoignaient au groupe des apôtres étaient très nombreux, ils étaient plusieurs centaines, plusieurs milliers ce jour-là, etc. Donc, ne pas me résoudre à une église en décroissance ou en déconfiture ou qui n'aurait plus d'aucune pertinence à parler, à être là. Non, je m'inscris dans la dynamique d'une église en croissance parce que je crois en l'action de l'Esprit Saint qui touche les cœurs. Voilà, pourvu que nous sachions nous adapter. C'est ce que le pape Jean-Paul II, avec déjà le pape Paul VI, Saint Paul VI, et ensuite les successeurs de Saint Jean-Paul II, Benoît XVI et François aujourd'hui, ont exprimé comme étant la nouvelle évangélisation. C'est-à-dire que l'Évangile n'a pas changé. L'Évangile, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Il n'a pas changé, mais c'est le monde qui a changé. Donc on n'annonce pas l'Évangile au XXIe siècle comme on l'annonçait au XVIIe siècle ou au Moyen-Âge. Il nous faut trouver les langages, les mots d'aujourd'hui, les projets d'aujourd'hui pour que cet évangile puisse toucher les cœurs, s'enraciner dans l'esprit des gens. Et c'est vrai, même la différence par rapport à il y a 15 ans, 20 ans, moi je me souviens lorsque j'étais jeune prêtre dans les années 90, eh bien la situation a considérablement changé. Donc je crois que nous sommes invités à cet effort, à cette réflexion. D'où l'idée des oasis à créer dans le désert.
Alors justement, quels sont les oasis auxquels nous nous invitez de rejoindre?
Ben écoutez, il y en a beaucoup d'oasis, et surtout j'invite les chrétiens à étudier, à réfléchir comment chacun dans son cœur, comment chacun dans sa famille, comment chacun dans son école, chacun dans sa paroisse peut imaginer telle ou telle oasis. pour favoriser ainsi la vie chrétienne, l'éclosion, l'accueil de nouveaux croyants, l'éclosion de la foi dans les cœurs. Alors moi j'en propose un certain nombre pour la vie diocésaine, et il y en a un certain nombre qui sont à l'étude, et déjà lancés un petit peu pour une mise en œuvre. On a évoqué les difficultés de l'épidémie qui facilitent pas cette mise en œuvre, mais il y a déjà des choses qui sont en route pour le sanctuaire Notre-Dame de l'Épine, avec l'accueil au mois d'août d'une communauté de bénédictines. Elles sont venues me rencontrer il y a quelques jours, elles vont revenir au courant du mois de mars. La supérieure générale va venir avec les 5 sœurs qui formeront la communauté de l'Épine. Et bon, il y a déjà des équipes de prêtres qui ont été mises en place au mois de septembre pour prendre en charge tout un espace missionnaire, et qui apprennent à vivre davantage la vie fraternelle et à partager la mission. Il y a déjà des initiatives pour élargir la proposition du sacrement de la confirmation. Nous avons lancé une application diocésaine que tout le monde peut télécharger et avoir sur son smartphone pour avoir les informations un peu en direct. Nous allons lancer dans chaque espace missionnaire un conseil pastoral dont la vocation, justement, c'est un groupe de laïcs autour du doyen, la vocation sera justement la réception du projet missionnaire et son application localement dans les paroisses de cet espace missionnaire. Nous allons aussi travailler à lancer des petites fraternités de proximité, un peu dans la suite de ce que j'évoquais tout à l'heure et qui est mis en route pour le temps du carême. Pourquoi pas après Pâques? Pourquoi on continuerait pas ces petits groupes de proximité? Voilà, voyez, toutes ces oasis pour permettre aux gens d'être ensemble et de pas se sentir tout seul, isolé, mais de travailler comme cela à la mission.
Monseigneur, je vais être un peu taquin et familier, mais le premier oasis, vous l'avez trouvé très facilement, puisque c'est Notre-Dame de l'Épine, et je crois bien qu'en ce moment, on parle beaucoup d'un puits à la basilique de l'Épine, où je me trompe, ou des fonts baptismaux.
Il y a un puits dans la basilique. L'histoire raconte que sur cette petite butte au cœur de la plaine de la Champagne pouilleuse, comme on disait autrefois, lorsque le projet est venu de construire une basilique, donc au XVe siècle, il a fallu d'abord creuser pour voir s'il y avait de l'eau, parce que pour le chantier, c'était quand même primordial. Donc on a trouvé de l'eau, quelques mètres de profondeur, je crois que c'est assez profond, une vingtaine de mètres il me semble. Et puis finalement la basilique a été édifiée et le puits a été enserré dans la basilique. Alors ça nous fait penser au chapitre 4 de l'évangile selon saint Jean, avec cette rencontre tout à fait étonnante d'une femme qu'on appelle la Samaritaine, avec Jésus qui est là. Et il y a un dialogue étonnant au cours duquel Jésus va éveiller tout doucement dans le cœur de cette femme qui est Samaritaine, qui n'est pas du peuple juif, le désir de Dieu, le désir de la vie avec Dieu. Et donc ce dialogue, eh bien, nous allons le proposer à tous ceux qui viendront au sanctuaire Notre-Dame de l'Épine, et la communauté de bénédictine y aidera, pour que ça soit un lieu de rencontre avec le Seigneur, un lieu de dialogue œcuménique, un lieu de conversion, un lieu de guérison spirituelle, un lieu de formation, etc., un lieu de prière. Les sœurs seront dans la basilique plusieurs fois par jour pour chanter l'office. Donc tout cela va donner un essor nouveau dans cette basilique et pour notre sanctuaire au cœur du diocèse de Châlons. Oui.
Et on peut inviter d'ailleurs les diocésains de Reims et des Ardennes à se rendre. Beaucoup d'entre eux la connaissent déjà, à la basilique de l'Épine, parce que c'est un haut lieu intéressant.
Un beau pèlerinage depuis le XVe siècle où la Vierge Marie est invoquée sous ce nom de Notre-Dame de l'Épine. La tradition rapporte qu'on trouva en 1400, le jour de l'Annonciation, une statue de la Vierge dans un buisson d'épines. Bon. Et donc, elle reçoit aussi un vocable en ce lieu depuis des siècles, c'est celui de protectrice de la Champagne. Alors vous voyez, tous les Champenois sont invités à passer à l'Épine pour vivre cette expérience qui sera proposée, celle de la rencontre autour du puits.
Alors, Monseigneur, il est vrai que les diocésains, ils ont vu tous ces changements. C'est vrai qu'au départ, quand on voit des changements, on se dit... ça va pas être facile, mais on a l'impression que les diocésains de Châlons, ils ont conscience aussi qu'il faut changer, qu'il faut transformer les choses.
Oui, le changement n'est jamais facile. Le changement n'est jamais facile, et je dois dire que je comprends bien et j'observe que certains sont sont un petit peu encore avec le frein à main serré ou presque bloqué. C'est difficile d'accepter le changement parce que on pourrait toujours l'interpréter comme le fait de dénigrer ou de ne pas valoriser ce qui a été fait précédemment. Pas du tout. Tout ce qui a été fait, c'est formidable. Il y a tellement de générosité, de fidélité qui s'est déployée depuis des décennies et des siècles. Mais aujourd'hui, voilà, ce sont des temps nouveaux. Moi, je me souviens, lorsque j'ai été appelé à l'épiscopat par le pape, son représentant, le nonce apostolique, qui m'avait convoqué à Paris, m'avait parlé de cela. C'était la mission, la nouvelle évangélisation dans le diocèse de Châlons. Et cela m'avait été dit d'ailleurs par l'administrateur diocésain au début de mon ordination dans la cathédrale, devant tout le monde. Donc tout le monde l'a entendu. Je crois que je suis là avec mon âge, ma génération aussi, pour entraîner l'église diocésaine de Châlons dans cette nouvelle étape de sa vie, qui ne renie pas son passé, mais qui se tourne vers l'avenir, avec les moyens qui sont les nôtres, qui sont marqués par la pauvreté, qu'on s'engage résolument, avec beaucoup d'espérance. Donc voilà, il y a des gens qui ont du mal à accepter le changement, il faut accompagner ce changement, ça fait toujours peur, ça déstabilise, il faut accompagner ce changement. Et puis j'entends aussi des réactions pleines d'enthousiasme et pleines d'élan, avec des gens qui ont envie vraiment de s'engager dans la mise en œuvre de ce projet. Et d'ailleurs, je propose, ça fait partie des oasis que je propose dans le projet missionnaire au numéro 38, c'est un engagement de disciples missionnaires. Voilà, je voudrais que des personnes, c'est un appel qui est lancé, que je peux redire ici, que ceux et celles qui se sentent non seulement intéressés, mais interpellés par ce projet missionnaire et qui veulent s'y engager, qui veulent y donner leur énergie, leur générosité de chrétiens, eh bien me le disent et puis que l'on puisse préparer et mettre en forme une sorte d'engagement des volontaires pour la mission. Des gens qui disent, allez, pendant 3 ans, je me donne à fond pour tel ou tel projet dans ce cadre-là.
Alors c'est vrai que vous avez déjà évoqué des rendez-vous pour l'été, par exemple Basilique de l'Épine, en tout cas pour dans les mois prochains, mais dans les prochaines semaines, c'est-à-dire cette fois à plus court terme, il va y avoir Pâques, il va y avoir le mois de mai-juin, vous avez déjà envisagé quelques rendez-vous possibles?
Oui, bien sûr, il y a déjà des tas de projets qui sont inscrits au calendrier, avec des points d'interrogation pour certains, mais je pense à... D'abord, pendant le carême, je vais commencer ce samedi, je vais à la rencontre de toutes les équipes paroissiales, les équipes pastorales de conduite, comme elles sont dénommées dans le diocèse de Châlons, parce que je compte sur ces équipes, beaucoup, qui sont formidables dans leur générosité, et je mise sur cette collaboration indispensable, nécessaire entre les fidèles laïcs et les prêtres, pour l'animation de nos communautés paroissiales. Donc je vais à leur rencontre, puisque la récollection de toutes les équipes n'a pas pu se tenir en janvier, et je vais non seulement chercher à leur redire toute cette motivation, et en même temps à leur représenter le projet missionnaire pour qu'elles-mêmes puissent en être des relais sur le terrain. Donc ça va être des rencontres pendant tous les samedis du carême. Il y aura bien sûr la Semaine Sainte, alors il faut savoir, déjà nous commençons à nous interroger sur la célébration de la messe chrismale ou même de la vigile pascale selon qu'il y aura encore ou non un couvre-feu. Donc il y a des tas de choses comme ça auxquelles il faut commencer à réfléchir. Et puis bien sûr c'est l'accompagnement des catéchumènes vers la célébration du baptême. Le dimanche qui suivra Pâques, 8 jours après, eh bien, je rassemblerai les jeunes baptisés, justement les néophytes, à la basilique de l'Épine pour le dimanche in albis, comme on dit en latin, c'est-à-dire en blanc, où les baptisés qui ont été baptisés dans leurs paroisses respectives se rassemblent autour de l'évêque, habillés de blanc comme au baptême, pour célébrer le mystère de l'Eucharistie, recevoir une catéchèse de l'évêque. Donc c'est une très belle tradition que j'ai voulu remettre en vigueur il y a 2 ans. Et puis l'après-midi, normalement, une rencontre avec des personnes qui sont séparées ou divorcées et qui vivent une nouvelle union. Donc à l'Épine aussi, une journée de miséricorde pour elles et avec qui se terminera par un petit pèlerinage à la basilique. Et puis le pèlerinage diocésain qui est prévu le 9 mai prochain avec la venue des sœurs bénédictines justement. Et nous signerons une convention ce jour-là entre la congrégation des bénédictines de Montmartre et le diocèse de Châlons. Et la veille se prépare une journée diocésaine de la jeunesse. Ça, c'est une oasis aussi que j'ai proposée dans le projet missionnaire diocésain. Cette journée se prépare grâce à l'engagement d'une bonne quinzaine de jeunes et qui permettra une journée de fête entre jeunes et de réflexion sur leur avenir aussi, justement en sortant de cette période d'épidémie et de confinement. Enfin voilà, beaucoup de projets qui vont nous mobiliser pour les semaines qui viennent.
Monseigneur, donc on aura l'occasion d'ici là d'en reparler, mais si on résume en quelque sorte le fil conducteur en ce jour du mercredi des cendres, où on arrive dans le désert, on va cheminer dans ces 40 jours, dans un désert où vous avez dit qu'il y avait des oasis aussi, et des chemins d'espérance, vous arrivez toujours à les trouver, vous, en tant qu'évêque, dans un diocèse, même puis parfois, comme vous l'avez dit, la conjoncture et l'inquiétude est toujours présente.
Alors, j'ai conscience que, comme évêque, je dois être le premier prophète de l'espérance. Mais je le disais tout à l'heure, et je le dis bien humblement et pauvrement, parfois j'en manque. Parfois j'en manque. Je puise dans ma prière, je puise dans ma relation au Seigneur, toute cette force de l'espérance pour entraîner mes frères et sœurs, en respectant aussi leur fragilité, leurs hésitations, leurs doutes. Mais je dois être le premier prophète de l'espérance pour que tout le monde se mette ainsi... en route sur le chemin. C'est humainement une mission qui humainement est difficile, je ne le cache pas, mais qui, avec la grâce de Dieu, c'est la foi que j'ai reçue au baptême, c'est ma prière, c'est l'expérience que Dieu est vraiment le sauveur, comme je le disais tout à l'heure. Tout cela me donne un regain d'espérance chaque jour et j'essaye de le partager. Alors le désert, oui, nous y allons, nous y entrons aujourd'hui, ce jour des cendres. C'est à la fois le désert, c'est un peu le lieu de la mort, hein, où on risque de mourir, de perdre la vie, on est tout seul, on est dans le silence. Mais dans la Bible, c'est aussi un lieu de renaissance, justement. Faut traverser ce désert, faire l'expérience dans cette solitude, dans cette aridité, faire l'expérience que Dieu est là. Que Dieu est là, justement, pas dans des choses extraordinaires, mais dans la simplicité de la vie de tous les jours, dans l'intimité de nos cœurs, dans l'affection, l'amitié fraternelle que nous avons les uns pour les autres. Donc c'est cela qui nous donne de l'élan et je souhaite que chacun puisse le vivre et le découvrir davantage pendant ce temps du carême.
Dans ces déserts souvent de solitude, d'ailleurs pour beaucoup qui nous écoutent, il peut y avoir une immense présence.
Oui, la présence mystérieuse, bien sûr, la présence mystérieuse de Dieu. Qui touche les cœurs. Certains n'arrivent pas à mettre un nom sur cette présence qu'ils ressentent, mais on n'est pas d'ailleurs que dans le ressentiment, que dans le ressenti. On est d'abord dans l'expérience intérieure, l'expérience spirituelle, qui est quasiment indescriptible. C'est difficile de trouver des mots pour dire ce qui se passe dans le plus profond de nous-mêmes. Et c'est pourquoi c'est important de se retrouver les uns avec les autres pour partager un peu cela. Pour dire voilà mes questions, voilà mes doutes, voilà mes joies, voilà ce que je vis dans ma prière, voilà ce que j'ai dit au Seigneur, voilà ce que je crois que le Seigneur m'a dit cela aussi. Donc la présence de Dieu, elle est mystérieuse, elle n'est pas comme votre présence ou la mienne lorsque nous voyons comme cela dans le studio derrière le micro, mais elle est bien réelle et nous savons aussi la goûter dans l'Eucharistie. Ce petit morceau de pain qui n'a l'air de rien du tout, nous croyons que c'est le corps du Christ livré pour nous. Nous croyons que Jésus est réellement présent dans son Eucharistie, comme il est présent dans son Évangile, comme il est présent dans la personne de chaque baptisé, de chaque ministre ordonné. Tout ça, c'est intéressant à découvrir, à approfondir, pour que nous sortions de cette horizontalité et que nous cherchions à nous élever vers les réalités du ciel qui nous donnent tellement, tellement de lumière et d'espérance.
Merci Monseigneur François Touvet d'avoir été avec nous dans ce 18-19 régional avec RCF Cœur de Champagne et RCF Reims-Ardennes. On aura bien évidemment l'occasion de nous retrouver en cette période de carême sur l'antenne et puis bien au-delà. Merci d'avoir été avec nous. Bon carême,
merci.
Monseigneur.
Merci et bon carême à tous.
On sera heureux de vous accompagner aussi dans les oasis dans lesquelles vous nous invitez à nous rendre. Merci
Monseigneur. Vous êtes le bienvenu.
Et merci. À très bientôt. Au revoir.
Merci.
Et si vous le permettez, Jean-Pierre, avant de se quitter définitivement et de donner la parole au réseau national de RCF, on va nous passer le témoin à Louis qui nous présente la météo de ce soir et demain sur les antennes de RCF en région. Bonsoir Louis.
Bonsoir Alexis.
Alors, quel temps dans le ciel demain ?
Alors, en soirée, on assistera à quelques éclaircies dans la Marne et les Ardennes, avec des températures assez fraîches, comprises entre 6 et 8 degrés, tout comme demain matin, avec une légère différence quand même au niveau des températures. Vous vous lèverez avec 4 degrés pour les Ardennes et 5 degrés pour la Marne. C'est l'après-midi que le ciel va commencer à se gâter, avec de la pluie un peu partout, et le thermomètre qui indiquera 10 degrés pour Charleville et 12 degrés pour Châlons-en-Champagne. Il fera 14 degrés à Vitry-le-François, et sans doute seront-ils épargnés par les perturbations. Demain, nous fêterons les Bernadettes et je vous souhaite une bonne soirée. À demain.
Merci Louis, c'était très complet. Une bonne fête d'avance aux Bernadettes et puis une bonne entrée en carême si jamais vous nous rejoignez sur les antennes de RCF ce soir. Il est déjà l'heure de se quitter. On se retrouve demain 18h10 pour un nouveau magazine régional. Bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.